Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bon début de semaine, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel, avec dans 30 minutes vos réactions, et elles sont très nombreuses ce matin, sur le Bénin. Nous sommes à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle et la Cour constitutionnelle a été saisie pour répondre à plusieurs questions. D'abord, la révision de la Constitution de 2019 a-t-elle, oui ou non, remis à zéro le nombre de mandats du président Patrice Talon, et le chef de l'État pourra-t-il se représenter et briguer un troisième mandat ? Le principal concerné a déjà eu l'occasion de déclarer qu'il ne sera pas candidat en 2026. En tout cas, le sujet alimente les discussions. On en débat donc ce matin. Vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70. Mais d'abord, nous allons consacrer les 20 prochaines minutes à l'intelligence artificielle. On vous en parle depuis quelques jours sur notre antenne. Paris accueille aujourd'hui et demain des chefs d'État, des patrons de la tech, des scientifiques du monde entier pour un sommet international sur cette technologie qui n'en est qu'à ses balbutiements, et pourtant elle bouleverse déjà notre quotidien dans de nombreux domaines sans forcément que nous en ayons véritablement conscience. L'occasion donc ce matin de faire le point sur cette révolution technologique qui fascine et qui, disons-le, inquiète également. À mes côtés pour répondre à vos questions, Nicolas Miaille, bonjour.
Bonjour Aude Gomez, merci.
Soyez le bienvenu. Vous êtes cofondateur et PDG de Prism Eva, qui est une start-up française spécialisée dans l'évaluation et la sécurité de l'IA. Vous êtes expert de la gouvernance de l'IA. Vous allez d'ailleurs, en sortant de ce studio, vous rendre directement au Grand Palais où se tient donc ce sommet international. On va évidemment parler de la façon dont cette technologie impacte notre façon de travailler, les conséquences sur l'emploi, sur le fonctionnement des démocraties également, les opportunités que représente l'IA pour le continent africain. Comment, Nicolas Miaille, définiriez-vous l'intelligence artificielle ?
Alors, c'est pas une question si facile, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on va en débattre toute la journée au Grand Palais, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est bien dans les sciences de l'informatique, et que c'est une somme de techniques qui, en gros, mobilise des gros jeux de données, des grosses puissances de calcul pour aller optimiser le traitement de certains problèmes. Par exemple, traduire du langage. Par exemple, reconnaître dans une image une tumeur cancéreuse. Par exemple, comprendre comment améliorer les flux logistiques dans le transport. Donc, une somme de techniques, dont au cœur de cette technique, cette fameuse IA générative, qui renvoie à des gros modèles statistiques, qui sont d'ailleurs des grosses boîtes noires, auxquelles on ne comprend pas grand-chose. C'est-à-dire que ceux qui développent ces systèmes ne comprennent pas la façon précise dont ces grandes matrices statistiques fonctionnent. Ce qui pose un problème de gouvernance énorme.
Ouais. Donc l'IA pourrait nous échapper.
Oui,
et quand vous dites que ceux qui sont à l'origine de l'IA ne comprennent pas ce qui se passe dans ces boîtes.
Mais tout à fait. Et c'est pour ça que des gens comme moi ont le métier d'évaluer, de venir faire du test pour justement vouloir calibrer les comportements de ces IA qu'on ne comprend pas bien. Il faut bien l'avoir en tête.
Je parlais en préambule de révolution technologique. J'ai raison, j'ai tort?
Complètement. Je dirais même révolution...
Complètement raison ou complètement tort?
Complètement raison. Révolution techno-scientifique.
Techno-scientifique. D'accord.
On a en face de nous des acteurs, pour la plupart privés, qui mobilisent des grandes sommes pour venir faire de l'investissement, mais également de la recherche scientifique. Et des sociétés comme DeepMind, OpenAI et autres publient des papiers dans les meilleures conférences scientifiques. Donc c'est vraiment de la science et de la technologie. Et cette science, je dirais, échappe de plus en plus aux grandes universités et au secteur public. C'est un des gros problèmes d'ailleurs.
D'où la nécessité aussi de s'entendre sur une réglementation internationale. On aura évidemment l'occasion d'en parler. On va passer tout de suite au standard, Nicolas Miaille. Je rappelle que vous nous suivez évidemment à la radio, mais aussi sur YouTube, en direct et en vidéo. David, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes au Togo, on vous écoute.
Oui, exactement. Ouais, j'aimerais savoir si l'intelligence artificielle est plus performante que l'intelligence humaine.
Alors, Nicolas Miaille, est-ce que déjà l'intelligence artificielle est-elle intelligente?
Bonne question. elle est en tout cas très différente de l'intelligence humaine. Elle l'optimise. Et donc, il faut vraiment se garder de ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. On a affaire à des systèmes qui relèvent du calcul de la science informatique. C'est très différent de la façon dont notre cerveau fonctionne. Il faut bien l'avoir en tête.
Ouais.
Et donc, pour se poser la question de la performance et de sa comparaison, dans certains domaines, par exemple dans la reconnaissance d'images, pour les récupérer au fond d'une image et détecter la présence ou pas d'une tumeur cancéreuse, oui, certains algorithmes de vision par ordinateur sont déjà largement plus performants que l'intelligence humaine. Sur l'ensemble des tâches que constitue le métier du radiologue ou le métier du chirurgien, non, pas encore, mais les choses vont vite, voire très très vite.
L'année dernière, Elon Musk, alors il ne dit pas toujours que des choses intelligentes, mais Elon Musk avait prédit qu'en 2025, l'IA serait plus intelligente que l'homme.
Alors, malheureusement, ça ne veut pas dire grand-chose. On n'a pas d'étalonnage facilement mobilisable pour exercer cette comparaison. Et puis, on est en face d'un problème qui est à la fois scientifique, mais profondément métaphysique. Et la question que pose David, elle est aussi un peu métaphysique. Et donc, on est en peine de benchmark, on est en peine d'étalonnage. Et c'est ça qu'on essaie de construire aussi. Bien mesurer cette révolution qui va à toute vitesse.
Autre question, et c'est encore un David qui nous la pose. Il est au Tchad. Bonjour David.
Bonjour Juan, bonjour à l'invité.
Nicolas Meillaille vous écoute, soyez le bienvenu.
Merci, je m'inquiète pour le futur du monde du travail avec les intelligences artificielles, Juan. Est-ce qu'elles ne risquent pas de faire augmenter le taux de chômage dans le monde entier?
Alors c'est une véritable inquiétude, Nicolas Meillaille.
Véritable inquiétude, et je crois, David, malheureusement, que vous avez raison d'être inquiet. Les choses vont tellement vite, et avec ce genre de révolution, on est à la fois dans une logique de complémentarité, où la machine vient augmenter, aider l'homme à mieux réaliser ses tâches, donc générer des gains de productivité, mais aussi on est confronté à de la substitution. Si vous allez aujourd'hui dans une agence bancaire, par exemple à Paris où nous sommes, vous allez voir qu'il y a beaucoup moins d'êtres humains derrière le comptoir, parce que les algorithmes, parce que les applications, le digital a pris quelque part une partie de cette valeur. Et je crois que cette logique de substitution vient en réalité substituer, et donc on n'a pas en face de nous simplement une logique heureuse, donc il va falloir s'adapter, et en face de nous on a en fait potentiellement déjà du chômage traditionnel, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va devoir se
mais
reformer.
On peut l'estimer, ce chômage, parce qu'il y a eu énormément d'études publiées ici et là. On parle de 83 millions d'emplois qui vont disparaître d'ici les 5 prochaines années. D'autres études mettent en avant des chiffres beaucoup plus importants.
Oui. On peut l'estimer et on le fait, mais c'est très difficile parce qu'on a en face de nous une révolution avec une très forte magnitude et une vélocité importante. Les travaux que mène l'OCDE, pas très loin d'ici, visent justement à générer des faits, des preuves pour essayer de comprendre les dynamiques de cette logique de complémentarité et substitution. Ce que je peux vous dire juste, c'est qu'on ne sait pas et il est urgent de comprendre.
Il est urgent de comprendre et en même temps, on nous rassure en nous disant, bon, certes, il y aura des millions d'emplois qui vont disparaître, mais d'autres millions d'emplois seront créés grâce à l'intelligence artificielle.
Ça dépend de la vitesse, création destructrice ou destruction créatrice. Ça dépend de la vitesse de création et de destruction. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'est pas facile à 45 ans, à 50 ans, de s'inventer ingénieur en sciences de la donnée. Voilà. Il faut quand même se dire que la formation professionnelle, les transitions de carrière, en milieu de carrière, ce n'est pas quelque chose qui est facile à réaliser. Surtout quand il faut aller vers des choses qui sont très techniques, tourner vers l'algorithmique et la science de la donnée.
Allez, chaque question d'auditeur mériterait une heure de réponse. Mais on va essayer ce matin de répondre au plus grand nombre d'entre vous qui nous rejoignez au standard 33 9 693 693 70. Bonjour Fabrice.
Bonjour Juan Gomez et bonjour Nicolas.
On vous écoute, soyez le bienvenu.
Il m'arrive souvent d'utiliser DeepSeek. Je m'inquiète de voir l'humain perdre le contrôle de l'IA. Quel est le risque? Comment les intelligences artificielles sont-elles réglementées aujourd'hui?
Alors, DeepSeek, c'est ce robot conversationnel chinois, on va en parler dans un instant. Vous évoquiez tout à l'heure, Nicolas Meillaille, l'absence de réglementation. Il existe des réglementations, si j'ai bien compris, je parle sous votre contrôle. Les États-Unis ont leur réglementation, la Chine a la sienne, l'Union européenne a également la sienne.
Alors, la Chine a la sienne, l'Union européenne a passé la sienne, les États-Unis se refusent à tout encadrement contraignant. Il n'y a pas de régulation aux États-Unis.
Aucune, d'accord.
Aucune.
Il semblait qu'il y en avait une sous Biden et que Donald Trump avait remis en cause en signant un décret, une décision prise l'année dernière par Joe Biden.
En arrivant, il l'a mis à la poubelle. Donc on rentre dans un cycle aux États-Unis de dérégulation et vous n'aura pas échappé, Juan Gomez, que c'est les Américains qui contrôlent les facteurs de production en matière d'IA. Donc la réglementation et l'absence de réglementation aux États-Unis est un facteur qui touche tout le monde. En Europe, on a fait un choix plus équilibré de chercher à encadrer en essayant en gros d'imposer à ceux qui développent et déploient ces modèles, des règles de gestion et de prévention des risques qui relèvent du monde industriel, du stress test, du crash test. Mmh.
Donnez-nous un exemple concret. On nous dit que la législation au sein de l'Union européenne est la plus complète au monde. Ça veut dire quoi pour un auditeur qui nous écoute ?
Eh bien, il faudra par exemple assurer un minimum de transparence s'agissant de la provenance des données qui servent à entraîner les modèles. D'où viennent-ils ? Sont-ils frappés par le droit d'auteur ? Ne le sont-ils pas ? Comment on se les est procurés ? Et comment ils sont utilisés dans l'entraînement de ces grandes matrices, de façon à ce qu'en sortie, des gens comme moi puissent évaluer, tester. Il y aura aussi des tests obligatoires, notamment pour les IA qui sont déployés dans des environnements risqués, le recrutement, par exemple, la santé. Mmh. Et puis, il y a une série d'encadrements dans le domaine sectoriel. Si on s'amuse à déployer de l'IA dans le transport automobile, dans le transport aérien, évidemment qu'il y aura des contrôles et des tests supplémentaires. Je rappelle qu'on a en face de nous, pour la plupart, des techniques dont on ne comprend pas bien le fonctionnement. Ce sont des boîtes noires. Donc, on a le problème de venir encadrer et comprendre le déploiement de ces boîtes noires dans l'économie, dans la société.
Et il sera évidemment question de la réglementation internationale tout à l'heure au Grand Palais.
Bien sûr, de l'harmonisation, de la coordination internationale. Ce que va essayer de faire la France aussi et l'Union européenne, c'est, je dirais, peut-être pas d'exporter, mais de construire une logique d'harmonisation internationale autour de ces règlements, de ce premier règlement européen pour l'intelligence artificielle.
Allez, Fabrice nous parlait de DeepSeek. Herman, lui aussi, nous parle de DeepSeek, ce robot conversationnel chinois. Bonjour Herman.
Bonjour Juan.
Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Merci Juan. En effet, concernant DeepSeek, on se rend compte qu'il a un certain succès et semble susciter beaucoup d'intérêt au niveau des États-Unis. Donc ma question est la suivante. Est-ce que aujourd'hui le domaine de l'IA ne peut pas devenir un nouveau champ de bataille entre les États-Unis et la Chine?
Oui, la réponse est oui.
Oui,
on a tout de suite vu Donald Trump interpeller les industriels américains en disant « Regardez ce que font les Chinois avec moins d'argent que nous et ils font tout aussi bien que nous ». Donc clairement, le nouveau jeu de bataille entre les deux pays sera sur l'intelligence artificielle.
C'est déjà le cas. Il y a déjà des sanctions appliquées sur les puces de calcul de la société Nvidia, dont on interdit l'exportation à la Chine des meilleurs. Donc on est déjà dans une logique de sanctions. Et puis il ne faut pas oublier que DeepSeek, c'est une IA à source ouverte. Donc tout le monde peut télécharger. Alors, c'est pas facile à faire sur son ordinateur. Mais cette IA à source ouverte qui permet le partage et une meilleure compréhension risque de se voir embarqués dans cette confrontation géostratégique, parce que les Américains sont plutôt tournés vers une IA fermée, et donc risquent encore plus de venir contraindre ces IA dites ouvertes, qui permettent à d'autres d'avoir accès à leur fonctionnement profond pour pouvoir le comprendre et l'améliorer.
Ouais, les États-Unis ont mis sur la table, en tout cas Donald Trump veut mettre sur la table, 500 milliards de dollars pour renforcer l'intelligence artificielle aux États-Unis. La Chine, elle, de son côté, s'est fixée comme objectif de devenir leader du secteur d'ici à 5 ans. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'argent sur la table.
Oui, beaucoup. Il y en a déjà beaucoup. Il va y en avoir plus. La France annonce une somme d'investissement ce matin de, je crois, 109 milliards d'euros. Donc on est dans cette logique, cette course effrénée. Il va falloir traiter et les Chinois sont bien à l'avant-garde.
Oui. On repasse au standard 33 9 693 693 70. Bonjour Alex.
Bonjour Anne Gomez. Bonjour aussi à l'invité.
Nicolas Miaille vous écoute.
Ah, Nicolas, monsieur Nicolas Miel. En fait, je voudrais juste parler de la situation de la RDC ainsi que le Rwanda. Mm-hmm. Le président Félix Tshisekedi est en froid sur le plan diplomatique avec le président rwandais Paul Kagame. Mais il y a une image qui est apparue sur le réseau social créé par l'intelligence artificielle montrant le président Félix Tshisekedi ainsi que le président Paul Kagame en train de prendre un verre de whisky. Ma question est celle de savoir... Est-ce que l'IA ne faciliterait pas la désinformation, surtout dans une communauté comme la communauté congolaise, dans un pays où d'abord nous aurons un sérieux problème en termes de connexion, d'Internet et aussi d'analyse.
On va pas s'attarder trois minutes sur cette photo, mais effectivement, c'est vrai qu'elle est surprenante, surtout que voilà, on a les deux chefs d'État assis côte à côte en train de boire un verre alors que leurs deux pays sont en conflit. Si on regarde bien la photo, et ça c'est, j'attends de vous également, Nicolas Miaille, que vous nous donniez des conseils, on remarque quand même quelques anomalies. Par exemple, on voit qu'un des doigts de la main droite du président Tshisekedi qui tient le verre semble être collé, donc on voit bien que la photo est fausse. Mais oui, l'IA permet de créer des photos qui semblent être vraies, mais qui en fait sont fausses.
Qui sont fausses et à très bas coût. Le coût de création de ce type de fausses images s'effondre. Et donc, si aujourd'hui, il y a des petits défauts qu'on voit sur la photo, demain, ça va disparaître très, très vite. Mmh. Donc, on rentre dans un monde, en effet, où la désinformation devient un risque réel du fait de l'effondrement des coûts de sa création. Demain, tout le monde, organisation criminelle, mouvement politique, pourra s'amuser. Et c'est déjà le cas. La campagne présidentielle aux États-Unis a été marquée par ce genre
mais
de
comment
phénomène.
Nous, consommateurs, pouvons-nous nous protéger de ces fausses photos?
Eh bien, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui puisse être fait. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un minimum de réglementation pour venir typiquement marquer ces contenus et permettre aux gens qui les produisent d'en assurer la véracité. Mmh. La question de la véracité commence déjà à s'imposer. C'est pour ça que les réseaux sociaux non réglementés sur cette problématique-là risquent de poser problème.
Ouais. Et on parle photo, mais c'est également valable pour la voix. Quelqu'un peut utiliser ma voix, Juan Gomez, journaliste à RFI, me fait dire une fausse information qui va ensuite être publiée sur les réseaux sociaux.
Voix et vidéo. On a déjà des cas de vidéos créées. Ce n'est pas simplement l'image, mais l'image c'était un petit peu hier. Aujourd'hui, c'est déjà la voix et la vidéo.
Un conseil pour ceux qui nous écoutent, pour essayer de démêler le vrai du faux quand ils voient une photo.
Soyez prudents, essayez de vérifier votre source. En gros, il faut chacun qu'on devienne un petit peu journaliste, qu'on apprenne à croiser des sources, à aller chercher les sources, à ne pas sauter sur la première information qu'on voit. Apprendre, je sais que c'est dur à faire, un petit peu le temps.
Alors, du temps, il nous en reste peu. À peine 4 minutes. Qui avons-nous au standard? Peut-être Alpha, bonjour.
Bonjour Juan, salut notre éminent invité.
Nicolas Miaille vous écoute, vous êtes en Guinée Alpha, soyez le bienvenu.
Merci. J'ai vu le clip de musique généré par l'IA qui reconstitue le massacre de Tcharoï. Si je ne savais pas que c'était de l'IA, j'aurais pu penser que c'était réel. Je ne pensais pas qu'on pouvait autant remplacer l'homme dans une œuvre et ça m'inquiète beaucoup. Ma question est la suivante. L'IA peut-elle finir par remplacer l'homme dans certains domaines, comme ici, dans le milieu de la culture?
Alors, j'invite tous les auditeurs à regarder ce clip, hein, Tcharoï 44, du rappeur sénégalais Deep Doundougis. C'est vrai que ce clip a été généré par l'intelligence artificielle. Les scènes sont reconstituées de manière réaliste. C'est une véritable prouesse technologique. D'ailleurs, on a pu entendre sur RFI la semaine dernière le rappeur qui a dit, voilà, si c'était pas grâce à l'IA, on n'aurait jamais pu envisager de faire un clip avec tout ce que ça demande en costume, en décor. Qu'en pensez-vous, Nicolas Miaille?
Tout à fait. Les progrès phénoménaux en matière de génération d'images permettent, c'est le bon côté, de démocratiser la création. Mais aussi, ce faisant, elles réduisent le volume d'emplois disponibles et elles transforment profondément la chaîne de valeur. Donc oui, dans les milieux de la création cinématographique, dans le milieu de la culture en général, il y a de quoi être inquiet et pas que pour de mauvaises raisons.
Ouais, les acteurs à Hollywood s'en inquiètent, pas qu'à Hollywood. On a vu des artistes, des intellectuels, des hommes et des femmes du monde de la culture en France interpeller justement les grands opérateurs sur l'avenir de la culture. Il y a un film, par exemple, qui sort demain en France qui s'appelle The Brutalist, qui a utilisé l'intelligence artificielle pour perfectionner l'accent hongrois des deux principaux acteurs, qui sont américains et anglais. Ça pose question tout de même sur la qualité de jeu des acteurs, en tout cas leur interprétation.
Oui, leur authenticité, je pense que ça pose question. Mais je me fais moins de soucis pour ces stars que je ne m'en fais pour les gens qui sont coincés au milieu de la chaîne de valeur, les intermittents, les gens qui produisent, qui fabriquent tous les jours, y compris dans cette maison, dans ce studio. C'est pas tant les stars qui vont être frappés, parce que de stars, il n'y en a pas beaucoup. C'est le grand volume de gens qui réalisent beaucoup de tâches pour reconstituer les images, traduire, faire. C'est ces gens-là dont le métier est exposé.
Ouais, vous êtes en train de nous dire que nous, ici, à la radio, il va falloir qu'on revoie beaucoup de choses, s'adapter à l'intelligence artificielle pour essayer de continuer à travailler.
Oui, comme dans les écoles.
Exactement. Vous allez nous quitter, Nicolas Miaille. Vous allez vous rendre donc au Grand Palais, où se tient donc ce sommet mondial. Vous allez prendre la parole, vous allez surtout écouter, vous allez rencontrer des confrères du monde entier.
On va présenter et dévoiler les résultats d'une étude comparative sur la sécurité des principaux giga-modèles de langage et la facilité avec laquelle on peut les détourner en leur imposant des instructions malicieuses. Et vous allez voir que c'est malheureusement encore assez facile.
Bon, merci infiniment, Nicolas Miaille, et merci à vous tous de l'intérêt que vous nous avez porté à cette première partie. Évidemment, première partie à écouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. Nicolas Miaille, cofondateur et PDG de Prism Eval, start-up française spécialisée dans l'évaluation et la sécurité de l'IA. Merci infiniment d'être venu dans ce studio et d'avoir pris quelques instants pour répondre aux auditeurs de RFI. Reste avec nous dans 10 minutes. Nous serons de retour et nous lancerons le débat sur le Bénin et la présidentielle de l'année prochaine. À tout de suite.